Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, Eric Manelakidza avec vous dans cette édition du vendredi 25 mars 2022. Au sommaire ce soir, un nouveau sommet de la CEDEAO à Accra pour examiner la situation politique au Mali, une semaine après l'échec d'une médiation. Au Sénégal du Forum mondial de l'eau, les participants veulent garantir un accès universel à l'eau. Les rebelles du Tigré s'engagent à respecter un cessez-le-feu quelques heures après l'annonce d'une trêve humanitaire illimitée par le gouvernement éthiopien. Le président américain Joe Biden en Pologne aujourd'hui, près de la frontière ukrainienne. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les dirigeants ouest-africains sont de nouveau réunis vendredi à Accra pour examiner la situation politique au Mali, une semaine après l'échec d'un accord avec la junte sur un calendrier de retour des civils au pouvoir et de levée des sanctions. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a été invité par la CEDEAO, mais Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a déclaré dans un tweet que le sommet d'Accra est en huis clos et la participation d'une délégation du Mali n'est plus nécessaire. On ne sait pas non plus si le colonel Assimi Goïta participe ou pas en visioconférence. Dimanche, Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, est reparti de Bamako sans être parvenu à un accord avec la junte. La CEDEAO conditionne une levée progressive des sanctions à la présentation par les autorités maliennes d'un calendrier acceptable pour le retour des civils au pouvoir. Hier, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a ordonné la suspension des sanctions prises contre le Mali, ce qui vient davantage compliquer ce sommet d'Accra qui doit aussi se pencher sur les coups d'État en Guinée et au Burkina Faso.
29 personnes sont mortes du choléra en une semaine au Cameroun, principalement dans l'ouest du pays, qui fait face à une flambée des cas, a annoncé le ministre de la Santé. Cette maladie diarrhéique aiguë, dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement, y apparaît périodiquement. La précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts au Cameroun entre janvier et août 2020. Les rebelles de la région du Tigré s'engagent à leur tour à respecter un cessez-le-feu quelques heures après l'annonce par le gouvernement éthiopien d'une trêve humanitaire illimitée. Le conflit dure depuis 17 mois et la faim menace les populations. Le point avec Nanit Talani.
Dans un communiqué publié ce matin, les rebelles tigréens s'engagent à mettre en œuvre une cessation des hostilités effective immédiatement et appellent le gouvernement éthiopien à prendre des mesures concrètes pour faciliter l'accès sans restriction au Tigré. Les rebelles se disent déterminés à ce que le cessez-le-feu soit un succès et assurent qu'ils feront de leur mieux pour donner une chance à la paix. Pour sa part, le gouvernement éthiopien a décrété hier une trêve humanitaire unilatérale afin de permettre la libre circulation de l'aide humanitaire devenue difficile depuis le 15 décembre. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, salue l'engagement des deux parties à la trêve. Washington exhorte toutes les parties à s'appuyer sur l'annonce d'une trêve pour progresser vers un cessez-le-feu durable.
Au Sénégal, le 9e Forum mondial de l'eau a pris fin aujourd'hui à Diamniadio, près de Dakar, dans un document intitulé Déclaration de Dakar, les participants réclament l'accélération de l'application du droit à l'eau potable pour tous. Le forum recommande l'adoption des plans de gestion durable et intégrés pour préserver les ressources en eau. Le forum préconise aussi une mobilisation des ressources financières pour l'accès des populations à l'eau. L'ancien Premier ministre du Togo, Gilbert Ngbo, a été élu vendredi à la direction générale de l'Organisation internationale du travail. Il devient le premier Africain à diriger cette institution. Monsieur Ngbo prendra ses fonctions en octobre, a annoncé dans un tweet l'organisation. En Tunisie, la justice ordonne la libération d'un journaliste incarcéré depuis le 18 mars pour avoir refusé de dévoiler ses sources. Khalifa Ghesmi, de la radio privée Mosaïque, a été arrêté après la publication d'un article qu'il a écrit sur le démantèlement d'une cellule terroriste et l'arrestation de ses membres.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden est arrivé ce vendredi en Pologne, non loin de la frontière avec l'Ukraine, pour une visite de 2 jours dans ce pays membre de l'OTAN et qui accueille des centaines de milliers de réfugiés fuyant la guerre. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Joe Biden commence sa visite de 2 jours en Pologne par une rencontre avec les soldats américains à Rzeszów. Plus de 10 000 militaires américains sont stationnés en Pologne. Joe Biden va aussi tenir une réunion sur la situation humanitaire dans la région en présence du président polonais Andrzej Duda. Il se rendra ensuite à Varsovie pour des entretiens demain avec les dirigeants polonais et une visite dans un centre d'accueil de réfugiés ukrainiens. La Maison-Blanche a annoncé que le président Biden doit conclure sa visite demain samedi par un discours majeur, un mois après le début de la guerre en Ukraine. Cette visite intervient au lendemain d'un sommet extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles. Le président Biden a promis de défendre le moindre pouce du territoire de l'OTAN.
Les États-Unis et l'Union européenne ont annoncé vendredi la création d'un groupe de travail visant à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des énergies fossiles russes. Washington s'efforcera de fournir à l'Europe 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié en 2022, a dévoilé le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen selon un communiqué. Le Kremlin a accusé vendredi le président des États-Unis, Joe Biden, de vouloir détourner l'attention du programme d'armement chimique et biologique américain avec ses déclarations sur un possible recours par la Russie aux armes chimiques en Ukraine. Le président américain a déjà assuré lundi qu'il était clair que la Russie envisageait d'utiliser des armes chimiques et biologiques, avertissant qu'une telle décision entraînerait une réponse occidentale sévère. Par ailleurs, la Russie a dit vendredi vouloir désormais concentrer ses efforts sur la libération de l'Est de l'Ukraine et reconnu la mort de 1351 de ses soldats et 3825 blessés depuis le début de l'offensive en Ukraine. Un bombardement russe sur un centre médical de Kharkiv dans l'Est a fait 4 morts et au moins 3 blessés. L'Ukraine demande à l'Union européenne de fermer ses frontières terrestres et maritimes avec la Russie et le Bélarus, allié de Moscou. Le ministre ukrainien des infrastructures a indiqué sur Twitter l'importance de ces mesures pour arrêter la fourniture de la Russie de biens pouvant être utilisés à des fins militaires. La cérémonie des Oscars aura lieu dimanche au Dolby Theatre à Los Angeles. Le show va débuter en fin d'après-midi avec cette année, avec 3 co-animatrices. Les 3 années précédentes, il n'y a pas eu de maître de cérémonie. Les précisions avec Dilly Dico, notre envoyé spécial sur place à Los Angeles.
Les derniers préparatifs sont en cours pour cette 94e édition des Oscars revenue au format normal. Les acteurs et célébrités, habillés par de grands couturiers, vont fouler le tapis rouge avant d'entrer au Dolby Theatre. Des mesures anti-Covid strictes ont été prises avec des tests obligatoires. 10 films sont en compétition pour le meilleur film de l'année, dont King Richard de Will Smith sur le père de Serena et Venus Williams, et Don't Look Up, une satire avec Leonardo DiCaprio sur une comète qui menace de détruire la Terre. Les cinéphiles penchent plutôt pour The Power of the Dog, sur la vie d'un homme dans un ranch, ou Coda, qui retrace une famille de malentendants. Pour l'Oscar du meilleur acteur, Will Smith a des chances. Pour les femmes, Jessica Chastain pourrait être primée actrice de l'année. Pour respecter la durée de 3 heures de cérémonie, certaines catégories seront annoncées avant la diffusion en direct. Comme d'habitude, le cinéma fera son cinéma et tout le monde attend un très beau spectacle. Dilly Dico, VOA Afrique, Los Angeles. Dilly Dico, VOA Afrique, Los Angeles.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans la minute écho de ce soir, retrouvez Nanit Sylvani Dalami pour l'actualité économique.
L'ancien Premier ministre du Togo, Gilbert Umbo, a été élu ce vendredi à la tête de l'Organisation internationale du travail, devenant le premier Africain à exercer cette fonction. Gilbert Umbo, 61 ans, est natif du Togo. Il a passé la majorité de sa carrière dans les organisations internationales. Il prendra ses fonctions début octobre pour succéder à l'ancien syndicaliste britannique Guy Ryder, en poste depuis 10 ans et qui a fait ses deux mandats. Le Zimbabwe a connu une inflation de 66% en février. Avec l'invasion russe en Ukraine, les prix des produits de base ont grimpé. L'essence a augmenté deux fois en l'espace d'une semaine. Le cours des céréales s'est envolé, la Russie étant le principal fournisseur de blé du pays. Nous devons nous préparer à une vague d'augmentation des prix, avertit le président de la Confédération des détaillants, Denford Mutashu. Pour terminer, les économies des pays en développement doivent agir dès maintenant pour amortir les répercussions de la guerre en Ukraine, alerte la Banque mondiale. La hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi que les pénuries d'approvisionnement, auront des effets douloureux immédiats pour les économies à revenus faibles et intermédiaires. Leur dette globale n'a jamais été aussi élevée depuis 50 ans. L'inflation est à son plus haut niveau depuis 11 ans.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. Ils sont 10 au départ et 5 seront au Qatar pour le Mondial 2022. La République démocratique du Congo et le Maroc ont donné le ton des matchs aller des barrages du Mondial. Zone Afrique, recevant les Lions de l'Atlas à Kinshasa, les Léopards ont concédé le nul 1-1. Le Marocain Tariq Tissoudali a répondu à la 76e minute au but de Yohan Wissa dès la 7e minute pour la RDC. À noter le pénalty manqué par le Marocain Ryan Mahé à la 54e. Deux rencontres en cours dont l'une met aux prises à Douala deux habitués du Mondial. Le Cameroun, 7 participations, record d'Afrique, et l'Algérie, 4, qui doit se racheter après sa déconvenue à la CAN, éliminée au premier tour. Des 10 équipes de ces barrages, seul le Mali, actuellement opposé à la Tunisie, n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Grosse affiche ce soir, Égypte-Sénégal, remake de la finale de la dernière CAN. Les pharaons de Mohamed Salah sont en quête de revanche après leur échec au tir au but en finale au Cameroun et ont à cœur de faire la différence face aux Lions de la Teranga avant de se rendre au Sénégal. Les deux géants anglophones Ghana et Nigeria vont aussi tenter de faire oublier leur échéance continentale ratée, sortie au premier tour pour les Black Stars et en huitième de finale pour les Super Eagles. Dans la zone Europe, la nouvelle la plus incroyable est venue d'Italie. La quadruple championne du monde, championne d'Europe en titre, va manquer le Mondial pour la deuxième fois d'affilée. Un but de la Macédoine du Nord dans le temps additionnel a éliminé l'Italie 1-0 et déprogrammé la finale de barrage tant attendue contre le Portugal qui, lui, a fait la loi contre la Turquie, battue 3-1. Le pays de Galles a battu l'Autriche 2-1 et jouera en juin contre le vainqueur d'Écosse-Ukraine, match décalé en raison de la guerre. Enfin, la victoire de la Suède en prolongation contre la République tchèque 1-0 promet un somptueux duel entre Zlatan Ibrahimovic, suspendu hier, et Robert Lewandowski pour la troisième finale de barrage. La Pologne est qualifiée pour le dernier tour après la mise à l'écart de la Russie par l'invasion de l'Ukraine. Dans la zone CONCACAF, l'Amérique du Nord donc, le Canada battu au Costa Rica 1-0 a manqué une première opportunité de valider son billet. Pour les Canadiens, un résultat nul aurait suffi pour la qualification, car un peu plus tôt, le Panama a été tenu en échec à domicile par le Honduras 1-1. Un nul suffira ce dimanche aux Canadiens face à la Jamaïque pour renouer avec le Mondial depuis 1986. Le Mexique et les États-Unis s'approchent un peu plus du Qatar. Après leur match nul 0-0, un succès dimanche des Américains et des Mexicains contre le Panama et au Honduras, conjugué à un nul ou une défaite du Costa Rica ou Salvador, leur permettra d'assurer leur présence au Qatar.
Merci Yacouba pour l'actualité sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Eric Manirakiza avec vous, place au dossier du jour. Les dirigeants ouest-africains sont de nouveau réunis ce vendredi à Accra au Ghana pour examiner la situation politique au Mali, une semaine après l'échec d'un accord avec la junte sur un calendrier de retour des civils au pouvoir et de levée des sanctions. Ce sommet extraordinaire de la CEDEAO doit également examiner la situation de la Guinée et du Burkina Faso. Claire Morin-Gibourg a joint à Dakar l'analyste politique Ibrahima Kan.
Cette réunion a bien sûr beaucoup de chances de réussir parce que tout le monde a intérêt à ce qu'une solution soit trouvée à la crise malienne, à commencer par les militaires qui voient dans les problèmes économiques qui s'accumulent une source de préoccupation. La CEDEAO elle-même qui sait que les sanctions prises contre le Mali ne sont pas très populaires dans la sous-région. Et troisièmement, parce que les dernières propositions qui ont été faites par les militaires me semblent être une bonne base de travail pour trouver une solution rapide à cette crise, parce que les militaires sont pratiquement passés de 5 ans à 2 ans pour la durée de la transition, qui constitue pratiquement le seul grand problème dans la recherche de solutions à la crise.
Alors hier, une cour ouest-africaine a ordonné la suspension des sanctions contre le Mali. Est-ce que vous avez été étonné de cette décision et surtout, est-ce que vous pensez que ça va pousser la CEDEAO à lever les sanctions?
Bon, elle peut aider à la recherche de solutions dans la mesure où personne ne veut se trouver dans une situation juridico-politique très complexe. La décision de la Cour de justice de l'UEMOA, en fait, ce n'est qu'une décision sur la procédure. Ce n'est pas une analyse au fond du dossier présenté par le Mali qui considère que les mesures prises par la conférence des chefs d'État des pays membres de l'UEMOA étaient illégales et totalement contraires aux droits communautaires. C'est simplement parce que le Mali avait marqué l'urgence de la décision que la Cour de justice a accédé à sa demande pour suspendre. Mais suspendre peut permettre aussi à la CEDEAO de saisir cette opportunité pour vraiment régler une bonne fois pour toutes la crise du Mali et s'attacher à régler d'autres problèmes. Parce que, vous savez, il n'y a pas seulement le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée, sur lesquels la CEDEAO ne s'est pas encore prononcée, mais sur lesquels on pense que la CEDEAO peut être amenée à demander aux dirigeants de ces pays-là de revoir leur copie. Donc se débarrasser de la crise du Mali est le meilleur moyen de pouvoir mieux focaliser son attention sur les deux crises qui peuvent aussi être des sources de problèmes, surtout en Guinée, qu'on voit déjà que les choses commencent à se compliquer pour les militaires.
C'était l'analyste politique Ibrahima Kan, joint à Dakar, au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Ce jeudi 24 mars, 90 jeunes africains issus de 15 pays ont terminé leur formation au Centre régional de leadership Yali de Dakar. Le programme Yali, initié par l'ancien président américain Barack Obama, en vue de contribuer à doter l'Afrique d'une nouvelle génération de leaders, vient d'atteindre la barre de 20 000 jeunes déjà formés. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Business et entrepreneuriat, engagement citoyen, gestion des affaires publiques. Pendant 3 semaines, près d'une centaine de jeunes Africains ont reçu une formation intensive dans ces domaines. Pour eux, les échanges et enseignements ont permis d'avoir une vision plus complète du leadership et surtout de comprendre que seule l'union peut permettre le développement de l'Afrique. Costa Rita de Ceuta est une bénéficiaire venue de Sao Tomé.
Ça me fait comprendre que malgré le fait que nous sommes tous, chacun dans son pays, avec son environnement, avec sa culture et ses mœurs, mais les problématiques, nous, Africains, sont les mêmes. Cela veut dire que nous, en tant que jeunes leaders, en tant que jeunes Africains, si on travaille en réseau, c'est ça aussi la façon dont ici, au Yali, nous font comprendre qu'il faut travailler en réseau pour arriver à Nambour. Et quel est le but principal pour nous en tant que jeunes Africains? Que toute l'Afrique, elle soit développée.
Ces 90 jeunes leaders africains ont traité plusieurs problèmes et l'un des projets phares a porté sur l'éducation et la sensibilisation des jeunes élèves sur l'usage rationnel des réseaux sociaux. Un projet porté par Serigne Fallou Hatch, un jeune Sénégalais, fonctionnaire de police et enquêteur à la division spéciale de cybercriminalité.
Je ne vous l'apprends pas, les réseaux sociaux sont en train de faire des dégâts énormes sur la vie quotidienne des élèves et sur la vie des jeunes d'une manière générale. Donc ce projet a été réalisé en phase test au lycée Kennedy et dans l'immédiat, des effets ont été sentis parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont volontairement manifestés pour dire qu'ils sont victimes d'harcèlement, ils sont victimes de menaces sur les réseaux sociaux.
Au-delà de la formation, le Centre régional de leadership Yali Dakar accompagne et encourage ses alumni à partager leurs opportunités et projets avec d'autres jeunes, aux femmes et aux personnes issues des minorités. Binta Koudidé, chargé du recrutement au Centre régional de leadership Yali Dakar.
Il arrive qu'ils conçoivent des formations sur la base de ce qu'ils ont appris, mais plus adaptées aux cibles qu'ils rencontrent sur le terrain directement. Aujourd'hui, dans les stratégies du Centre régional de leadership Yali Dakar, on va accompagner les réseaux pays, qui sont des antennes dans chacun des pays, pour qu'ils forment d'autres jeunes, mais en masse. Et tout ce qui est contenu de formation et matériel pédagogique sera fourni par le centre. Donc nous espérons pouvoir atteindre une cible beaucoup plus large que les 4356 qu'on a déjà formés.
Au total, c'est plus de 20 000 jeunes leaders africains qui ont eu à bénéficier du programme Yali à travers des centres régionaux de formation en leadership installés à Dakar, Accra, Nairobi et Pretoria. C'est Dina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les hôpitaux à la frontière avec le Nigeria sont débordés par le nombre de malades atteints de choléra qui demandent de l'aide. Au cours des deux derniers jours, près de 600 personnes ont été admises dans les hôpitaux de trois villes de l'Ouest. 29 personnes sont mortes du choléra en une semaine. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, le récit avec Nanit Sylvani Talani.
Le ministère de la Santé du Cameroun indique qu'une épidémie de choléra sévit dans les villes de Limbé, Bouéia et Tiko, près de la frontière avec le Nigeria. En moins d'une semaine, 29 patients transportés d'urgence dans les hôpitaux sont décédés. Nienti Anerike est directeur de l'hôpital de Limbé qui a une capacité de 200 lits, mais a reçu plus de 240 malades du choléra.
We got three things.
Nous avons construit trois tentes à l'hôpital de Limbé hier parce que les patients étaient à la véranda, dans les couloirs des salles. Tous les lits étaient pleins. À l'hôpital de district de Tiko, la capacité est également dépassée. L'hôpital de Boya est une autre zone de crise.
Pour faire face à ce débordement, les humanitaires aident à monter des tentes dans les hôpitaux de Limbé et Boya. Le gouvernement affirme que de nombreuses familles transportent leurs malades vers les villes de Moutengene et Douala, villes commerciales sur la côte atlantique. Bernard Okalia-Bilaï, gouverneur de la région du Sud-Ouest, a présidé au moins trois réunions de crise mercredi. Il déclare que l'épidémie de choléra est causée par une pénurie d'eau potable dans les villes et villages de l'Ouest, provoquée par la longue saison sèche. Les civils devraient s'abstenir de boire l'eau de pluie, selon M. Bilaï, qui ajoute que la maladie se propage rapidement parce que le bétail et les civils font leurs besoins à l'air libre et dans les rivières.
The cholera outbreak is there. Our structures, the hospitals are over.
Nos structures, les hôpitaux sont surchargés. Mais ces hôpitaux ont été proactifs et ont pris des mesures pour recevoir divers patients. tous les patients sont sous traitement.
Le gouverneur Bernard Okalia-Bilaye promet que les autorités vont fournir de l'eau aux villes arides de Limbé, Bouéa et Tiko, ainsi qu'aux villages environnants, mais il n'a pas précisé quand. Les agents sanitaires font du porte-à-porte pour encourager les civils à faire bouillir l'eau des puits et des ruisseaux avant de la boire. Selon le gouvernement, les gens ne devraient manger que des aliments bien cuits et se laver les mains avant et après les repas et après être allés aux toilettes. Le Cameroun a connu une autre épidémie de choléra en février qui avait touché 1300 personnes et avait fait plus de 30 morts.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Des réfugiés ukrainiens arrivent toujours en Pologne. Beaucoup traversent les frontières et séjournent dans des camps avant d'embarquer dans des bus et des trains pour rejoindre d'autres destinations. Dans les camps et les stations, des bénévoles les aident pour certains besoins de base. Le reportage de Mary McGowey et Karina Chouduri, le récit Yakuba Ouedraogo.
Le camp de Korczowa, à quelques kilomètres de la frontière de la Pologne et l'Ukraine, est un point de transit pour les réfugiés. Dès qu'ils sortent des bus, ils sont accueillis par des bénévoles qui leur fournissent nourriture, eau et autres produits de première nécessité. Outre les volontaires polonais, il y a des organisations et des personnes venues du monde entier pour les aider. Deux volontaires allemands sont venus en Pologne, amenant aussi les contributions des habitants de leur ville natale. Sacha est l'un d'eux.
J'organisais le truc, nous nous rassemblons via Facebook dans ma ville natale et en quelques heures, plus d'une centaine de personnes sont venues et ont donné beaucoup de nourriture, de vêtements et de l'argent. Avec cet argent, nous sommes venus ici. Nous ne sommes pas payés. Nous l'utilisons comme carburant. C'est du bénévolat. Mais c'est bien parce qu'on en a tellement à la maison. Nous avons tellement pris de l'Afrique. Nous avons pris tant dans tous les pays colonisés. Nous devons donner quelque chose en retour.
Des bus transportent les personnes du camp de réfugiés de Korczowa à la gare de Przemysl, point de transit majeur pour les réfugiés. De là, ils embarquent dans des trains vers d'autres villes de Pologne et même vers d'autres pays voisins. Daria, professeure de solfège, et ses deux fils attendent un train pour la Suède. Elle voulait rester en Ukraine pour aider, mais affirme qu'elle doit aussi penser à la sécurité de ses enfants.
My husband is in Ukraine. He stayed in Ukraine.
Mon mari est en Ukraine. Il est resté en Ukraine pour protéger son pays. Nous avons décidé de partir parce que je m'inquiète pour leur vie. Je ne pense pas à ma vie. Je dois réfléchir à la façon de les protéger.
I have a kid, so I have to think about them, how to protect them, you know.
De nombreux bénévoles sont présents à la gare. Certains hébergent les femmes et les enfants. D'autres servent des repas chauds sur le quai. Sacha est une volontaire venue avec sa famille depuis Austin au Texas pour aider.
Nous sommes venus en famille, nous voulons juste aider. Ma famille parle russe et nous nous sentons donc particulièrement qualifiés pour venir parce que nous pouvons traduire.
La plupart des bénévoles sont venus de leur propre chef. Barton Baya est lui aussi venu d'Austin, ville du Texas aux États-Unis.
Il est difficile d'imaginer où ils iront d'ici et comment ils trouveront des emplois et quand ils pourront revenir et à quoi ressemblera leur maison à leur retour. Et donc cela est un problème que nous pouvons examiner en ce moment, mais ça restera un problème pour la plupart de ces personnes dans quelques années.
Daria, la professeure de solfège, exprime sa douleur face à ce qui arrive à son pays.
C'est horrible, horrible, parce qu'un fou est venu chez moi et a tout détruit. Détruit la maison de quelqu'un. Vous savez, c'est un sentiment horrible.
Cependant, elle garde toujours espoir qu'un jour, elle pourra retourner chez elle.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production et de la rédaction qui a permis La réalisation de ce journal, Joselle Morissin, Michel Pierre-Joseph, Lionel Runanira Gahima. Eric Manirakidza était avec vous à la présentation, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée, à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.